Jean Lacornerie, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directeur, programmateur, mais aussi créateur, on peut dire, du théâtre de la Croix-Rousse, ici à Lyon.
Oui.
On vient vous voir parce que le samedi 9 novembre 2019, vous avez décidé de commémorer cette date comme une date anniversaire.
Eh bien, c'est l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et en fait, on avait décidé avec la compagnie La Cordonnerie, qui est une compagnie qui travaille sur la forme du ciné-spectacle.
Des habitués de la Croix-Rousse, je pense.
Absolument, tellement habitués que du coup, on avait envie avec eux de faire une sorte de rétrospective de leur travail, de présenter dans la même semaine plusieurs de leurs spectacles. Et l'un de ces spectacles se passe justement au moment de la chute du mur de Berlin. C'est une transposition du conte de Blanche-Neige. Et donc, Samuel Hercule et Mathilde Eyergans, qui sont les deux animateurs de cette compagnie, nous ont dit que ce serait formidable qu'on puisse jouer ce spectacle le jour anniversaire de la chute du mur. Donc du coup, on a construit toute une journée autour de cet anniversaire où il y a effectivement ce ciné-spectacle. Et puis, il y aura aussi une rencontre qu'on organise avec le Goethe-Institut avec une écrivaine allemande qui s'appelle Tatiana Böhn. Et puis, un concert qu'on a demandé au Quatuor de Bussy qui vont faire un programme spécialement pour nous en hommage à Mstislav Rostropovitch qui est ce violoncelliste qui est allé jouer devant le mur et qui symbolise un peu cet événement-là. Voilà.
Vous, personnellement, vous avez un souvenir de cette journée? Ça vous évoque peut-être une image, une émotion?
Ah bah oui, d'ailleurs ce que dit très bien Samuel, il dit finalement c'est peut-être le dernier événement historique heureux qu'on ait vécu. Et c'est vrai que ça a été, enfin pour ma génération, puis sans doute plein d'autres gens, un événement auquel on ne s'attendait pas. On pensait les blocs figés, on pensait que ça ne bougerait jamais, et puis tout à coup, pouf, ça s'ouvre, et il y a eu un grand espoir. Alors évidemment maintenant, aujourd'hui, on a du recul, et c'est très compliqué ce qui s'est passé ensuite, mais ce jour-là, en tout cas, il y avait du bonheur, oui.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer, selon vous, la symbolique peut-être de la chute de ce mur pour les générations qui sont encore jeunes?
La symbolique, c'est ce qui a ouvert tout le bloc soviétique, en fait, même s'il était déjà un peu craquelé par-ci et par-là. C'est à partir de cette séparation de Berlin, qui était coupée donc en deux, la circulation possible, du coup, entre les deux parties de Berlin, Est et Ouest, a symbolisé, effectivement, la fin d'un bloc homogène et fermé, du bloc communiste, voilà. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, c'est... Mais en tout cas, il y a eu tout à coup l'espoir que voilà, les choses allaient circuler. Alors, on a l'ambition de construire des murs ici et là. C'est intéressant de voir l'aberration totale que c'était.
Alors pour revenir à la programmation de ce jour, donc on commence à, je pense, 14h30 avec la Cordonnerie. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces habitués de l'Institut qu'est la Croix-Rousse ?
Oui, on les aime beaucoup parce que c'est des gens qui font un travail très original. Je parlais de ciné-spectacle, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'ils tournent un film en prévoyant que ce film sera ensuite sonorisé sur un plateau. C'est-à-dire qu'il...
En direct.
Voilà, le film est prévu pour construit pour ce qu'il va permettre en termes de bruitage, en termes de voix, en termes de musique, qui sera joué en direct. Donc les deux acteurs, quelquefois ils sont plus, mais là en général c'est eux deux, Mathilde Eyergans et Samuel Hercule, qui font toutes les voix des films, font les bruitages, et puis ils sont accompagnés de musiciens. Et donc on voit finalement ce film se réaliser de cette manière en direct. Leur inventivité en termes de bruitage est incroyable. C'est très 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 plaisant de voir à la fois le film, parce que les films sont très soignés, et en même temps il y a cette espèce de plaisir du direct qui rend la chose théâtrale totalement.
Vous nous disiez, le Goethe-Institut intervient un peu avant la fin de Blanche-Neige, c'est vers 15h donc.
Ça c'est une rencontre en fait, elle va avoir un regard évidemment sur ces événements très différents, puisque elle, d'une famille en fait, son père était un homme politique qui avait une carrière qui se dessinait devant lui justement au moment de l'ouverture du mur comme étant un des responsables politiques qui pouvait incarner le bloc de l'Est, et puis malgré ça on a sorti son dossier Stasi et donc là, il s'est retiré de la vie politique, donc elle va raconter ça et son rapport avec son père, enfin voilà, on va voir ça du côté est-allemand en fait, et c'est très intéressant. Puis ensuite effectivement il y aura le concert. Il y a des entrées différentes sur ce thème de la chute du mur pour des publics avec des âges différents.
Donc à la fois pour des gens qui connaissent forcément ce qu'est le mur, mais aussi effectivement en tout cas pour les familles, pour présenter peut-être aux moins jeunes et plus jeunes, qu'est-ce que c'était que la chute du mur du Berlin.
Oui, alors justement dans le film il en est beaucoup question à travers le conte de Blanche-Neige, puisque effectivement Blanche-Neige a sa famille qui est vivante de l'autre côté. Le père qui est disparu est de l'autre côté du mur. Donc effectivement, la question du mur est tout à fait clairement montrée et posée dans le film. Mais je ne sais pas, je pense que ces traces du mur sont encore toujours très fortes, en fait, dans notre vie d'aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce mur ait totalement disparu.
Et donc, cet hommage à Mstislav Rostropovitch, il a joué, c'est ça, pour des grands compositeurs.
En fait, Mstislav Rostropovitch était une des grandes figures de la musique du XXe siècle, violoncelliste, soliste, et qui a incarné à la fois, parce que c'était un des rares musiciens soviétiques qui pouvait venir jouer hors du bloc soviétique, donc, et il a beaucoup travaillé sur ces questions-là et a essayé d'aider aussi les autres musiciens qui étaient confrontés à des difficultés terribles pour jouer. Et donc, il a aussi été l'ami de beaucoup de compositeurs. C'est vraiment un grand violoncelliste, un travail très important, qui était aussi chef d'orchestre. Enfin, c'est une énorme figure de la musique. Et donc, il a connu les grands compositeurs russes qui étaient ses contemporains, Shostakovich, Prokofiev, etc. Donc, à travers son parcours d'artiste, qui était un artiste engagé, on peut construire un programme musical qui évoque en fait cette musique et comment la musique était sous le joug de la censure soviétique.
Oui, parce que Rostropovitch, il a été un peu malmené dans son pays. Je crois qu'à une époque, il a été obligé de fuir parce qu'il ne pouvait plus se produire. Et donc, il y a eu une très longue période avant qu'il puisse revenir en Russie.
Effectivement, il a choisi de partir. Et donc, quand ce mur s'est fissuré, quand il a été cassé d'une certaine manière, pour lui, c'était évidemment le moment où il allait pouvoir retrouver... toute sa vie avait été construite finalement sur un combat contre cette séparation. Et donc forcément, il est allé spontanément à Berlin jouer devant le mur avec son violoncelle sans prévenir personne.
C'était lui-même un symbole et je pense qu'il y aura des images d'ailleurs qui montreront un peu ce qui s'est passé à l'époque.
Oui, effectivement, le concert sera émaillé de quelques images d'archives où on verra effectivement ce moment où il joue une suite de Bach devant le mur et puis des témoignages de sa famille.
Vous disiez deux publics pour ces deux représentations. Peut-être vous connaissez bien d'ailleurs les publics de la Croix-Rousse. Et on parlait de murs tout à l'heure, en disant que les murs existent encore. D'ailleurs, en tant que programmateur et directeur, j'imagine que vous faites face au quotidien et à l'année à comment essayer d'abattre des murs entre le théâtre et le public, entre les différents publics, entre les différentes offres culturelles. Peut-être vous pouvez nous parler des moyens et de la politique que vous mettez en œuvre en vue d'abattre ces murs.
Enfin, c'est très différent du mur de Berlin. Ce sont des peut-être des barrières plus, psychiques. Parce qu'en réalité, il y a énormément de possibilités de venir au théâtre. Et on peut penser toujours que l'obstacle, c'est l'argent. Mais en réalité, c'est plus compliqué. Effectivement, il y a des publics qui n'ont pas d'argent pour aller au théâtre. Mais ça, il y a toujours des systèmes, des dispositifs qui permettent de payer beaucoup moins cher, voire pas du tout. Mais après, la difficulté, c'est de trouver du temps et aussi d'avoir la disponibilité ou la liberté de pousser la porte du théâtre. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué comme mur. Donc là, ça passe par un travail d'accompagnement avec des associations pour que les gens viennent ici, se sentent bien et soient accompagnés. Ça passe aussi beaucoup, et ça, on le fait beaucoup ici à la Croix-Rousse, par de la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, on invite souvent les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre plutôt à venir pour pratiquer avant d'être spectateur. Quand on a commencé à fabriquer quelque chose, alors là, du coup, on a quelque chose en commun qui fait qu'on peut ensuite être spectateur à part entière.
Oui, parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens, le théâtre, ils considèrent que c'est pas pour eux, que c'est pas à leur portée, ou qu'ils imaginent forcément que ce qu'ils vont voir ne va pas leur correspondre.
Je crois que c'est même pas ça, c'est que y a tellement de freins sur l'horaire, sur la disponibilité, sur garder les enfants, il y a plein de choses qui font que les gens peuvent ne pas venir. Il y a tous ces aspects très matériels qui empêchent de venir. Et puis après, effectivement, est-ce que c'est pour moi? Et là, ça passe effectivement par ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire expliquer que oui, bien sûr, c'est pour tout le monde d'abord et que ça peut intéresser toutes sortes de gens. Et ça, on le fait beaucoup. On le fait aussi beaucoup avec les élèves, les classes. Enfin, c'est tout un travail qui repose ici sur une équipe où il y a une équipe de relations publiques qui travaille là-dessus à plein temps.
Et donc, on vous rappelle ce jour, samedi 9 novembre 2019, où il y aura donc une programmation de deux spectacles, à l'image, en quelque sorte, de la programmation nouvelle, depuis que vous êtes ici d'ailleurs, du Théâtre de la Croix-Rousse, de la musique, du théâtre.
Oui, absolument. C'est aussi notre intérêt pour cette compagnie, la Cordonnerie, c'est qu'effectivement, il y a un aspect musical très développé. Ils ont de très bons musiciens avec eux. Et que c'est une des formes, finalement, du théâtre musical qu'on peut défendre, comme on défend plein d'autres, la comédie musicale, l'opéra, l'opérette, c'est toutes les formes de spectacles avec musique sont les bienvenus à la Croix-Rousse.
Merci Jean Lacornerie, et puis à bientôt.
Merci à vous.